What?
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 Bonjour et bienvenue dans votre podcast. Il était une fois un train aujourd'hui avec Clive Laming, historien, en direct du festival Derrière-vous 2022 à Grand Contrôle. Bonne écoute. J'ai la chance, l'honneur de rencontrer Clive Laming, qui va aujourd'hui nous parler d'histoire, évidemment, et d'histoire passionnante autour du train. Bonjour Clive.
Bonjour.
Bienvenue au festival Derrière-vous. Alors, aujourd'hui, je voulais traiter un petit peu avec vous de l'histoire du voyage en train. Alors, on peut le prendre par mille bouts, mais est-ce que ça vous dit si on parle un petit peu de chronologie et puis de commencer peut-être par le début? Comment le voyage en train a commencé, le voyage loisir, on va dire, comment ça a débuté, où est-ce que ça a débuté et puis par où c'est allé après?
Alors, le voyage en chemin de fer, imaginez un personnage à l'époque, disons 1810, les romans de Balzac. Si le curé Tour va voir son neveu à Paris, il lui faut à peu près 15 jours pour faire l'aller-retour. Si on va de Paris à Marseille à l'époque, c'est 20 jours. Le chemin de fer permettra de faire en heure ce qu'on faisait en jour, c'est-à-dire que d'un seul coup, si vous allez de Paris à Marseille, vous irez en 20 heures. Le train va 24 fois plus vite à ce moment-là que la diligence et le cheval. Autrement dit, c'est une révolution, c'est la plus grande révolution en matière de vitesse dans l'histoire de l'humanité. Le TGV d'aujourd'hui, en mettant 3 heures, ne va que 7 fois plus vite que le premier train qui allait 20 fois plus vite que ce qui était avant. Autrement dit, le bouleversement fantastique s'est fait surtout avant. Alors maintenant, vous me parlez de voyage et de loisirs. Alors ça, on appelait ça au 19e siècle l'absentéisme. L'absentéisme, c'était être à la mode, c'était d'être absent. C'est les touristes anglais, riches, richissimes, qui voyagent en chemin de fer pour leur plaisir. Le voyage en chemin de fer était plutôt une triste obligation pour le travail. Et lorsque George Stephenson, qui a inventé le chemin de fer moderne en 1822, il veut transporter du charbon, les gens montent de force sur les wagons pour voyager, en habit du dimanche d'ailleurs, ils sont tout noirs sur des wagons de charbon. Et Stephenson dit, ah non, les voyageurs voyageront à la vitesse du charbon. Il refuse les voyageurs, c'est quelqu'un d'encombrant. Les marchandises, en somme, on les charge, on les décharge, mais les voyageurs, il faut du confort, donc c'est vraiment des gens qu'on ne souhaite pas voir. Le chemin de fer n'est pas preneur des voyageurs, et c'est par une sorte de coup de force, finalement, de l'opinion publique que les voyageurs vont finalement monter dans les trains, et les compagnies vont être obligées de mettre beaucoup d'argent pour créer des voitures confortables et faire des trains rapides.
Donc finalement, on a adapté une demande forte des voyageurs pour le voyage.
Les voyageurs sont venus vers le train, surtout parce que le train offrait la sécurité. En diligence, on se faisait détrousser. Et savez-vous, par exemple, qu'en diligence, on mourait énormément sur les routes. Dans la France de 1790-1800, il y avait 17 millions d'habitants, il y avait 5000 morts sur les routes à cause des diligences qui versaient et les bandits qui tuaient les gens. Alors le train amène avec lui la sécurité, on arrive entier, vivant, et à l'endroit convenu, et à l'heure convenue. Autrement dit, le chemin de fer, finalement, vous voyez, ça naît de conditions qui ne sont pas seulement touristiques, mais d'abord et avant tout de sécurité.
C'est une des principales préoccupations, en effet, des gens. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moment zéro, un point de départ du tourisme ferroviaire dans l'histoire de l'humanité, en France, en Angleterre ou je ne sais où?
Oui, le moment zéro existe c'est vers 1850, quand les poètes romantiques allemands font leur voyage nach Italien, en Italie. Ils vont pleurer au bord des lacs italiens. Quand les milliardaires anglais, avec la casquette double visière et le sac de cuir, distribuant des pourboires, le My Lord anglais se met à voyager en train, c'est 1850, 1860, 1870 même, c'est déjà considérable. Et dans les premières écoles communales de l'époque de Jules Ferry, il y a déjà ces fameuses affiches montrant des paysages français qu'on pouvait atteindre en train. On les voit aussi dans les gares, et on les voit même dans les voitures de chemin de fer. On voit des photos au-dessus des sièges où on voit traditionnellement le Mont Saint-Michel, Étretat, le Mont Blanc, enfin, c'est-à-dire les musts de l'époque. Autrement dit, le chemin de fer a toujours été lié au rêve.
D'accord, très bien. Et quels sont ensuite les jalons qui ont marqué l'évolution du voyage en chemin de fer, peut-être aussi bien au niveau du matériel que des ouvertures de lignes majeures que
Le jalon suivant, c'est le Front populaire en France. D'un seul coup, le Front populaire réclame des vacances, des voyages, les fameux congés P, c'est-à-dire que les gens vont monter dans le train, les ouvriers en dimanche, avec leur tandem, et la petite remorque pour mettre le gamin, et on va partir en chemin de fer jusque dans les Vosges, en fait, etc. Ils sont mal vus sur la Côte d'Azur, ils sont mal accueillis parce que là c'est un entre-soi aristocratique, souvent anglais, mais c'est le deuxième mouvement qui est très fort. Alors les trains de l'époque 1930 sont pas plus rapides que ceux de 1970, mais ils sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus longs, et les trains comportent jusqu'à 1000 voyageurs assez facilement. Autrement dit, c'est un tourisme de masse finalement, avec des, vous savez, ces gros wagons voyageurs avec des rivets, vous savez, très lourds, très solides, très inconfortables. On a les cuisses qui brûlent en été sur le marocain, vous savez, sur le comment est-ce qu'on appelle ça déjà, cette matière qui est sur les sièges, le formic, le sky des sièges. Donc voilà, c'est absolument épouvantable. Les gens se disputaient pour qui voulait mettre du chauffage, qui voulait ouvrir la fenêtre. On faisait la barricade avec la porte du compartiment pour pas que des intrus viennent vous prendre votre place, enfin, etc. Donc c'est un monde extrêmement à la fois égoïste, dur, mais c'est le tourisme de masse. Et alors, il y a une autre étape qui se fait à l'époque, c'est le tourisme des sports d'hiver. Les gens vont skier à partir de 37-38, il y a les trains de neige, et la compagnie qui fait le plus grand bénéfice, c'est le Paris-Lyon-Marseille, qui a la chance de posséder les Alpes, mais aussi les plages de la Côte d'Azur, et finalement, c'est la compagnie qui gagne par le tourisme. Le réseau de l'État à l'ouest se veut aussi le réseau de la mer, avec la Bretagne, la façade atlantique, mais c'est vraiment la Méditerranée qui l'emporte le plus.
D'accord. Ça veut dire que ouais, c'est ces compagnies qui avaient l'accès finalement aux lieux de villégiature ont su exploiter aussi quelque part ce potentiel.
Les compagnies ont la clé vers les rêves. Les compagnies se font beaucoup d'argent. Même les premiers rêves, c'est les villes comme non pas Étretat, mais sur le nord de la France, trou de mémoire. À côté de Dieppe, Mers-les-Bains. Non, il y a des villes là. Alors, il y a Berck, et un peu plus bas, il y a Mers-les-Bains, MERS. Et alors, ces villes-là sont des villes du Second Empire. On pouvait partir à 5h du matin, être vers 8h au bord de la plage, et rentrer le soir. C'est une journée à la mer. C'est le premier rêve que peuvent s'offrir les prolétaires qui travaillent dans les usines de Paris, enfin, etc. On va passer une journée à la mer, on va voir la mer. Ah, le mythe de la mer vient de là, voir une fois la mer dans sa vie. Voilà.
Ok. Et si on parle un petit peu finance, est-ce que le train, justement, on parle de prolétaire, est-ce que le train est accessible à l'époque? Combien ça coûte et comment on fait pour voyager quand on n'a pas beaucoup de sous?
Comme on dirait aujourd'hui, pour répondre à votre question, combien ça coûte? Le train coûte cher. Le train coûte très cher, n'a jamais été très bon marché, mais on gagne sur les frais d'hôtellerie, la diligence. Il faut effectivement s'arrêter le soir au coucher du soleil. On ne peut pas rouler de nuit parce que les routes ne le permettent pas et les lampes n'éclairent pratiquement pas. Donc la diligence est proscrite la nuit alors que le train roule la nuit. Donc finalement, c'est cher, c'est beaucoup plus cher que la diligence, mais on gagne tellement que finalement, peu à peu, le pli est pris et les gens vont admettre de payer très cher pour le train. Le train n'a jamais été donné et bien que jamais donné, il a toujours été déficitaire. Vous savez que le train a très rapidement, dès Napoléon, dès 1842, dès les premières lois sur le chemin de fer, confie à l'État le soin de construire finalement les infrastructures. Les compagnies ne fournissent que le matériel roulant et les bâtiments des gares parce qu'elles ne peuvent pas fournir autre chose. Il faut que le train soit tout de suite un service public, ce qui n'a jamais été vraiment parce qu'on lui a trop souvent parlé de bénéfices et de déficits. Si le chemin de fer était traité normalement pour moi, il serait traité comme la santé, la justice, la police ou l'éducation, c'est-à-dire un service public. On ne ferme pas un lycée parce qu'il ne rapporte pas d'argent. On le sait que ça ne rapportera pas. Donc le chemin de fer devrait être vu comme un service public. Or, il ne sera jamais vraiment. Il sera toujours condamné à aller vite et à rapporter de l'argent. Donc c'est ce mariage de la vitesse et de la cherté qui fait le succès du chemin de fer. C'est difficile à dire, c'est même assez choquant, mais l'histoire le montre très très clairement finalement. Alors, regardez, le train est même tellement cher que la quasi-totalité des voyageurs, plus de 90% voyagent en troisième classe. Vous avez ensuite la seconde classe, qui est la petite bourgeoisie qui ne veut pas se mélanger avec le peuple. Et la première classe, ce sont les aristocrates, les banquiers corrompus, les rois, les duchesses, etc. Très peu de gens, finalement, accèdent à la première classe. Déjà en troisième, c'est déjà très cher. Et l'automobile aura un très grand succès parce que finalement, mais oui, c'est curieux, mais la 4 chevaux Renault, la 2 chevaux Citroën, les voitures comme les petites voitures de Peugeot des années 1920-1930, la 201, toutes ces voitures-là, coûtent un petit peu cher, mais pas tant que ça. Et surtout, le pétrole est donné. C'est-à-dire que c'est une époque où l'automobile est à la portée de tous, les routes sont gratuites, et donc en avant, en voiture Simone, et on fait crever le monde et la nature à cause de ça. Donc pour moi, la seule bouée de sauvetage, c'est effectivement le sauvetage de la planète. Le sauvetage du chemin de fer se passera par la révolution écologique. Je ne sais pas si elle se passera. Je le souhaite.
On le souhaite, évidemment. Il reste un tout petit peu de temps, mais j'aimerais qu'on aborde rapidement le train de nuit. Il y a un renouveau aujourd'hui. Est-ce que le train de nuit, ça a été quelque chose d'intéressant pour l'univers ferroviaire, pour la démocratisation des congés?
Le train de nuit, c'était le pain noir. C'était les trains de soldats. C'était les gens perdus, c'est du couchette. C'était très dur, le train de nuit. Le train de nuit existait parce que le train n'allait pas assez vite. Il était obligé de se transformer en train de nuit à partir de la fin de la journée, parce qu'avec une moyenne de 70 km/h, on n'arrivait jamais quelque part, on ne faisait pas Paris-Marseille en la journée, ça débordait sur la nuit, et finalement ça prenait toute la nuit. Donc le train de nuit a vraiment été quelque chose de honni, de détesté, et on l'a presque supprimé avec soulagement quand c'est le TGV qui a mis fin au train de nuit, avec les vitesses extraordinaires, plus besoin de train de nuit. Alors aujourd'hui, s'il revient, c'est par un autre biais finalement. C'est par une sorte de nostalgie, le train de nuit va coûter très cher, ça va être relativement luxueux, les nouveaux trains de nuit sont luxueux, ce sont des sortes d'Orient Express. D'ailleurs, savez-vous que l'Orient Express était un train de voiture-lit? Et il y avait une voiture restaurant et des voitures lits. C'est tout, il n'y a pas de voiture salon ou voiture bar. C'était donc des trains de nuit. La compagnie des wagons lits a fait rouler des trains de nuit à une époque où c'était très cher, très luxueux. Et ça rompait un peu avec le train de nuit de Monsieur Tout-le-Monde, qui était vraiment quelque chose d'horrible. Ça sentait le permissionnaire à plein nez. Les congés payés, comme on disait, ça sentait mauvais. Ça sentait le prolo. Donc le train de nuit, c'était le pain noir de la SNCF aussi. Enfin, à l'époque, elle n'existait pas. Disons des anciennes compagnies qui faisaient ça à contre-cœur. C'était quasiment une obligation de service public.
Okay. Bon. Ouais, c'est parfait. On aimerait vraiment discuter des heures avec vous parce que vous avez tellement de choses à raconter.
C'est quand vous voulez.
On peut vous retrouver aussi parce que vous publiez beaucoup d'ouvrages. Est-ce qu'il y a un ouvrage récent que vous avez publié dont vous voulez parler?
C'est gentil de me demander. Mon plus récent ouvrage, c'est La France de gare en gare, qui est un gros livre sur les gares qui est publié chez Ouest France. Sinon, l'ensemble de mes livres se trouve, vous savez, vous tapez simplement Lamming sur Google, Lamming, et vous avez des sites comme Amazon et autres qui vendent l'ensemble de tous mes livres. Tous mes livres sont vendus d'occasion. Sinon, j'ai aussi pour vous un site que j'ai créé, qui est le site web Train Consultant, nom que m'avait donné Scorsese quand je travaillais pour lui, pour Hugo Cabret, et Train Consultant. Il y a beaucoup d'extraits de mes livres. J'écris très librement beaucoup de choses et je donne beaucoup de photos que j'ai, beaucoup de documents. Donc, on peut toujours me trouver quelque part. C'est sans problème.
C'est ça qui est formidable. Merci mille fois, Clive Lemming, pour votre disponibilité. Et puis, bonne continuation. Et on est impatients de découvrir vos ouvrages et de vous entendre raconter vos histoires.
Puis je peux revenir un jour à Watt, puisque j'ai l'honneur d'en faire partie. Et j'aime beaucoup l'esprit de cette association, qui est Once Upon a Train. Un jour, on rêvait, c'est une très belle légende, mais on l'a fait toujours vivre. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Le merveilleux est en soi merveilleux. Il faut continuer à rêver, à être enfant.
Écoutons cela avec attention et merci encore une fois. Merci beaucoup.
What?
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 What?